Chapitre 4. Conclure avec panache. Nous venons de voir à quel point il était important pour une oratrice ou un orateur de savoir capter l'attention et susciter la bienveillance dès les premiers mots. Mais la clôture de notre intervention est tout aussi cruciale. Elle se doit de marquer l'esprit des auditeurs afin qu'ils se souviennent de nous. C'est le deuxième pilier de l'ordre nestorien, non seulement commencer, mais également conclure par les éléments les plus mémorables possibles. 1. L'art de marquer les esprits, les claptraps. Quel étrange et terrifiant pouvoir que celui de savoir se faire applaudir. Susciter à sa guise l'enthousiasme des auditeurs. Conclure son discours sous les hurrahs de la foule. Un pouvoir si fabuleux en réalité qu'il ne peut que rester mystérieux. Nulle formule magique, recette miracle ou équation cachée ne pourra jamais en résumer l'infinie complexité, n'est-ce pas ? Et pourtant si. Il existe plusieurs travaux, à mi-chemin entre la rhétorique et la science politique, qui se sont penchés sur l'art de se faire applaudir au cours d'un meeting électoral. Leur objet d'étude n'est donc pas exactement la clôture du discours, mais plutôt les réactions spontanées de la foule au propos d'un orateur. Les deux questions sont toutefois directement liées. Lorsque nous concluons notre intervention, nous cherchons généralement à remplir deux objectifs. Le premier, laisser dans les esprits un souvenir flamboyant. Le second, nous épargner la gêne d'une clôture marquée insuffisamment, cet atroce moment de flottement durant lequel le public ne sait pas s'il doit applaudir ou non. Dans un cas comme dans l'autre, ce qu'il nous faut maîtriser, ce sont bien des techniques permettant de soulever sur commande l'enthousiasme des auditeurs. La rhétorique anglo-saxonne appelle cela des claptraps, des pièges à applaudissements. Pour fonctionner, un claptrap se construit à l'échelle d'une période, c'est-à-dire une séquence autonome et cohérente au sein du discours. Cette période doit être caractérisée par deux éléments, la saillance et la résolution. La saillance, d'abord. Nous allons devoir façonner un passage remarquable, détonnant, distinct du reste de notre intervention. C'est ainsi qu'il produira de l'enthousiasme chez nos auditeurs, marquera leur mémoire et leur donnera envie d'applaudir. La résolution, ensuite. Une fois que nous aurons mené notre période jusqu'à son apogée, nous devrons marquer son point final avec clarté, savoir la refermer, la résoudre. C'est de cette manière que nos auditeurs comprendront intuitivement, sans que nous ayons à leur demander, qu'il est temps pour eux d'applaudir. Créer de la saillance et donner un sentiment de résolution, voilà les deux éléments qu'il nous faudra respecter au moment de rédiger la clôture, ou péroraison, de notre intervention. Il nous reste donc à dresser la liste des différents procédés rhétoriques permettant d'atteindre l'un et l'autre de ces objectifs. Nous avons répertorié ici les outils les plus couramment utilisés. Comme pour la section précédente, ils seront illustrés à l'aide d'une seule et même étude de cas. Étude de cas. Candidat à l'élection présidentielle française, je m'apprête à tenir le plus grand meeting de ma campagne. Conscient de la nécessité de marquer durablement les esprits, j'opte pour une clôture grandiose, 3 minutes d'apothéose émotionnelle, ponctuée par les applaudissements répétés du public. Voici comment je procède. Et pour lever toute ambiguïté, je réponds à la question. Quel est, en définitive, notre projet politique ? Nous voulons bâtir la France de demain. Une France du travail, du mérite, de l'effort, où le droit de chacun s'appuiera sur l'égalité de tous. Une France de la justice, où l'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Une France de la solidarité, où aucun des enfants de la nation ne sera laissé de côté. Une France du civisme, où chacun demandera non pas ce que la République peut faire pour lui, mais ce que lui peut faire pour la République. Une France de la diversité, où les enfants d'immigrés seront fiers, fiers d'être français, français, parce que c'est le plus beau nom qu'on puisse donner à un citoyen du monde. Une France de l'exemple, où le pays se retrouve dans ce qui le réunit, dans ce qui l'élève, dans ce qui le dépasse. La France n'est pas un problème, la France est la solution. Mes amis, écoutez-moi bien. Nous avons devant nous le plus important des choix. Toujours le même, depuis que la démocratie existe, nous avons le choix entre la peur et l'espoir, entre la résignation et le sursaut, entre l'agitation et le changement. Eh bien le changement, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. Le futur, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Vive la République et vive la France.
Directement inspiré du discours de François Hollande au Bourget le 22 janvier 2012, alors qu'il était encore candidat à l'élection présidentielle, la première phrase est, elle, tirée du discours de la députée Roselyne Bachelot le 7 novembre 1998 à l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi sur le PACS.
2. Créer de la science.
Le crescendo. Le premier procédé permettant de créer de la science est à la fois l'un des plus essentiels et l'un des moins explicables. Il s'agit du crescendo. Nous allons organiser une montée progressive en intensité dans notre discours afin de soulever les émotions de l'auditoire. Cette montée en puissance va passer par toutes les dimensions de ce que l'on appelle l'action oratoire, c'est-à-dire la prononciation du discours. Sur le plan verbal, tout d'abord, les phrases se raccourcissent, deviennent de plus en plus brèves, claquantes, en même temps qu'elles se gorgent des autres procédés de science que nous examinerons par la suite. Mais ce n'est pas tout. Le crescendo doit également être porté par la dimension paraverbale du discours. Les intonations de notre voix s'accentuent, se font de plus en plus marquées afin de briser toute monotonie du discours. Le volume augmente, se fait de plus en plus fort, afin que la montée en décibels accompagne la montée en émotion. Le rythme s'accélère, se fait de plus en plus rapide et saturé, de sorte que chaque interstice de silence devienne un signal d'applaudissement. Ce crescendo paraverbal doit être soutenu par la troisième dimension de l'action oratoire, le non-verbal, l'incarnation corporelle de notre discours. Là aussi, tous les éléments doivent être mis à profit. La posture, de plus en plus verticale et affirmée, les gestes, de plus en plus amples et saccadés, le regard, de plus en plus intense et acéré. Parfois, le crescendo peut même être intégré directement dans la structure du texte. Si nous désirons vanter les avantages d'un produit ou d'une proposition, par exemple, nous pouvons les présenter sous la forme d'un simple plan énumératif où chaque nouvel élément est introduit par la formule « Mais attendez, il y a mieux !» À la quatrième ou cinquième occurrence, si le procédé a été déployé correctement, l'enthousiasme devrait atteindre un point d'effervescence. On le voit, verbal, paraverbal, non-verbal, toutes les dimensions de l'action oratoire doivent être mobilisées pour conduire l'auditoire vers son acmé émotionnel et nous valoir nos applaudissements. Les hyperboles. En rhétorique, l'hyperbole est la figure de l'amplification. Elle consiste à exagérer volontairement une image ou une idée afin de la mettre en relief. Elle est donc un procédé naturel de la science. Elle permet de rendre une phrase marquante, de participer au crescendo et de mobiliser des émotions intenses. Notre étude de cas en est parsemée. Le plus important des choix. Français, parce que c'est le plus beau nom, etc. Les métaphores. Comme nous l'avons déjà vu, l'utilisation d'une métaphore permet de susciter un effet de présence chez nos auditeurs. Si elle est suffisamment claire, forte et originale, l'image que nous suggérons va s'imposer aux esprits et les frapper de toute sa force. La métaphore s'impose donc intrinsèquement comme un procédé de science. Elle contribue à donner du relief à notre discours, le rendre mémorable et susciter des émotions, autant d'éléments cruciaux si nous désirons récolter des applaudissements. Notre étude de cas en possède un bon exemple. Une France de la justice où l'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Les répétitions. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la répétition est un des procédés de science les plus redoutables qui soient. Le simple fait d'asséner à plusieurs reprises un mot ou un segment de phrase permet de lui conférer une importance capitale, voire un caractère mystique qui peut suffire à plonger nos auditeurs dans un état d'exaltation. Partant de là, deux types de répétitions s'offrent à nous. La plus élémentaire est l'épanalepse. Elle consiste tout simplement à répéter un élément clé, le plus souvent à trois reprises, nous y reviendrons, jusqu'à ce que les auditeurs prennent pleinement conscience de sa portée. On en trouve une occurrence dans notre étude de cas. Le futur, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Mais on pourrait également citer deux exemples historiques célèbres. L'un chez le général de Gaulle, lors de l'appel aux Français du 18 juin 1940. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. L'autre chez le révolutionnaire Danton. De l'audace, encore de l'audace. « Toujours de l'audace, et la France est sauvée !» Le second type de répétition, plus subtil, est l'anadiplose. Il s'agit tout à la fois d'un procédé d'insistance et de liaison, consistant à utiliser le même mot à la fin d'une proposition et au début de la suivante. Là aussi, nous en trouvons plusieurs occurrences dans notre étude de cas. « Où les enfants d'immigrés seront fiers ?» Fier d'être français, français, parce que c'est le plus beau nom. Mais nous pourrions aussi mentionner des exemples dans le théâtre de Victor Hugo. Tuer une femme sans défense. Ou dans le cinéma de George Lucas. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Les assonances. Plutôt que de nous contenter de réitérer des segments de phrases, nous pouvons également utiliser une suite de mots dans laquelle ce sont les sons qui se répètent. On parle alors, d'une manière générale, d'assonance. Il s'agit là aussi d'un procédé naturel de science. En créant une impression d'élégance et de fluidité, il va ajouter de la musicalité aux propos et attirer de ce fait l'attention. Notre étude de cas en comporte plusieurs occurrences, l'une relativement balourde, avec cette assonance en « en » pour suggérer l'élan, le changement, c'est maintenant, l'espérance, c'est maintenant. L'autre plus subtile, avec cette assonance en « r » pour suggérer l'ardeur, une France du travail, du mérite, de l'effort. Les références mobilisatrices. L'un des procédés les plus couramment utilisés pour rendre une période saillante consiste à la parsemer de références mobilisatrices. Il s'agit de concepts, de personnes, d'événements, d'œuvres, d'objets dont nous savons que la simple évocation suffira à susciter l'enthousiasme du public. Se placer sous le patronage d'un personnage illustre, rappeler le souvenir d'un passé glorieux, s'inscrire dans la perspective d'une œuvre inoubliable, autant de manières de mobiliser à notre profit des marqueurs à même de faire vibrer la fibre identitaire, clanique, voire tribale de nos auditeurs. Encore nous faut-il, bien sûr, connaître suffisamment bien les personnes auxquelles nous nous adressons pour savoir quelles références les toucheront. Si nous avons un doute, nous pourrons toujours nous rabattre sur un chapelet de concepts mobilisateurs. On nomme ainsi les concepts qui sont vagues, flous et mal définis, tout en demeurant connotés positivement. Les oratrices et orateurs peuvent les employer sans crainte, ils feront plaisir à tout le monde, tout en ayant la même signification pour personne. À dire vrai, notre étude de cas en est presque entièrement constituée. Mérite, effort, égalité, justice, solidarité, nation, civisme, diversité, citoyens du monde, exemple, espoir, futur, changement, tous ces mots ont assez de souffle pour faire vibrer les cordes émotionnelles, tout en restant suffisamment génériques pour ne mettre personne en désaccord. Avec, en définitive, cet étonnant paradoxe, si nous les supprimons, il ne reste plus rien de notre clôture. Durant ces 3 minutes de discours, nous avons parlé, nous avons ému, mais nous n'avons rien dit. Nous y reviendrons.